Du Vernois, souvenir, deuxième partie. J'ai passé tous mes jeudis dans le cabinet de lecture du passage des panoramas et faibles qu'entouraient les burgraves. En face de ce cabinet de lecture, entre 25 centimes, livres, revues et journaux à discrétion, une boutique m'intriguait, toujours close, sans enseigne, les rideaux fermés. On croyait à la présence en ce lieu d'une diseuse de bonne aventure. Et c'était le logis d'un des voirs cinématographiques en 1830, Céleste Mogador. Elle avait dansé à ma bille, avait plu et s'était assagie jusqu'à la littérature. Comme elle éprouvait de la difficulté à gravir les étages, elle avait loué une boutique à deux pas des boulevards qui évoquaient pour elle les chers fantômes. Un de ses familiers m'introduisit chez elle. Cet octogénaire de haute taille avait encore des yeux superbes, des yeux de foie et de flamme dans un visage dévasté. Elle consacrait ses journées et une partie de ses nuits à l'élaboration de romans feuilletons interminables. Nul vestige de sa folle jeunesse, nul souvenir de ses folles compagnes. Clara Poincaré Pomaré. Mais elle montrait, accrochée au mur, une petite photographie d'Alexandre Dumas fils avec dédicace. Son portrait m'encourage à écrire. Il m'appelle son confrère, lui. Et elle me donna la lecture de quelques pages. Et comme nous prenions congé, elle s'excusa. « Oh, je ne vous accompagne pas. Fermez bien soigneusement la porte. C'est l'heure où le fou vient tambouriner. Il paraît qu'il est inoffensif. » En effet, au moment où nous trouvions la porte pour sortir, un homme à l'aspect sérieux de fonctionnaire provincial tenta de jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce lieu plein de mystères. Comprenant que ce soir-là, il n'en aurait pas davantage, il reprit sa route, paisiblement. Nous le suivions. En somme, ce fou avait l'air raisonnable. Mais quand il entra dans l'ombre d'une rue, il se mit à trotter sur la pointe des pieds en poussant des « ch 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 » de gamins qui imitent la locomotive. Malgré la discrétion qu'il apportait à ce jeu, quelques passants s'étonnèrent. Alors le fou se retourna et, m'adressant un sourire indulgent, signifia qu'il entendait nullement m'amuser. J'ai toujours attiré la confiance. Mettons des exaltés. Mon enfance a été séduite et épouvantée par une famille originale composée d'un père morphinomane et de quatre rejetons versianiques. Le père avait été l'un des hommes les plus importants de Paris. Rouge était à peu près ruiné. Il vivait tant bien que mal des reliefs de son opulence, vendant son argenterie pièce par pièce, ses tableaux, puis ses médailles et ses meubles. Il est mort dans son hôtel, jadis bourré à la mode Second Empire, devenu vide et sonore comme une maison à louer. Le fils aîné, complètement idiot, présentait avec sa chevelure épaisse, sa barbe inextricable, ses lèvres rouges et ses pattes d'assassin, l'aspect d'un brigand romantique. Il sortait de cette barbe une sorte de grondement qu'on frottait quand on parvenait à discerner le sens des paroles rassurantes. « Oh, je les ai admirablement élevés !» affirmait le malheureux père. Son fils émettait donc des paroles de politesse. « Mes hommages, madame, mes salutations les plus distinguées, monsieur. » Mes cordialités les meilleures, mon petit garçon. Je vous baise la main, mademoiselle. Par malheur, ce répertoire s'arrêtait là. Et au moment du départ, il s'embrouillait dans les paroles d'accueil et vous proposait un bon fauteuil quand il se disposait à gagner la porte. Le second fils était charmant, fin, distingué, joli garçon, une tête d'adolescent vénitien. Il se contentait de sourire, ayant à peu près perdu l'usage de la parole. Mais il souriait de l'air le plus entendu, le plus continuel. Il avait une fâcheuse propension à chasser de son oreille une mouche imaginaire. Oh, il aurait pu faire dans les salons les mieux connus et les mieux tenus figure de philosophe railleur et de non-jouant taciturne. Le troisième se présentait sous les espèces d'un colosse hilar. Il riait à propos de tout, et si fort que les vitres en tremblaient, et que les animaux du voisinage, émus par ce tonnerre, regagnaient au plus vite leurs abris. Et sur celui-là, le dernier venu, le père ramassait toutes ses espérances. Et l'autre son triste, avait-il. Mais ce petit est expiègle, simplement. Il déborde d'un trop plein de grâce et de gaieté. Cela s'arrangera. L'espiègle se tordait, et comme les gens distingués, mettaient la main devant leur bouche pour bâiller, lui, afin de renforcer la gaieté qui le secouait. Il mordait ses doigts avec énergie. Il avait obtenu aussi des phalanges effroyables, enflées et tuméfiées. Et du bout de ses doigts, monstrueux, il m'offrait des bonbons que je refusais. Sans plus de façon, il dévorait les bonbons lui-même, avec un peu de ses doigts par-dessus le marché. Enfin, il y avait une jeune fille, restée fort jolie, avec des yeux immenses et glacés, sa pâleur, sa démarche royale. Mais vers 16 ans, la bouche si pure s'est affaissée. Elle était toute douceur, toute grâce, toute indulgence. Elle excusait ses frères. Elle expliquait l'originalité en touchant son front avec un soupir. Elle se faisait d'ailleurs autant pour son père qui lui semblait le plus satin de tous. Le pauvre homme, au milieu de sa famille saugrenue, avait pris un parti assez commun aux toxicomanes. Il dormait le jour et vivait la nuit, c'est-à-dire aux heures où le brigand cambrait, l'aristocratie souriant, le jeune espiègle et leur calme sœur avaient rejoint les normes dans le sommeil. Il s'enfermait alors dans son cabinet où il retrouvait les vestiges de sa richesse, une bibliothèque de nacre et d'ébène offerte par un souverain, un samovar d'argent, un tableau que tout le monde attribuait à Raphaël, sauf les acheteurs. Là, cet ex-financier écrivait des vers, innocente et touchante manie, dont sont atteints beaucoup de gens qu'on imagine. Un fatras de nuées traversé de quelques éclairs. Il est impossible, en effet, de mettre au jour une telle quantité d'alexandrins sans que le hasard, dieu des mauvais poètes, vous en accorde un sur 100 de passables et un sur 1000 d'excellents. Oh, je crois bien qu'il ne s'en est ouvert jamais qu'à moi. Preuve, oui, nous nous communiquions nos essais. Il m'avait donné quelques conseils. Mais c'est parfait, Mais on sent que tu comptes encore les pieds. Et pour que la mécanique te devienne familière et ne te gêne plus, écris tant que tu pourras. Comme il ne voyait plus très clair et brouillait un peu les dates, il ajoutait, oubliant ma jeunesse, « Il en va de même pour les femmes, mon bon ami. Comment trouver tout de suite celle qui vous est destinée ? Les nièces attardent avec la première venue qui leur tombe sous le cœur. »
Un beau matin, il nous amena sa fille. « Voulez-vous, demanda-t-il à ma mère, me rendre le service de la garde une heure ou deux ? J'ai des rendez-vous d'affaires. Je passerai la reprendre vers midi, car je lui ai promis de l'amener au restaurant. Elle n'a jamais déjeuné au restaurant, et je lui dois bien cette petite fête. » Là-dessus, il prit congé. Nous devions le revoir à 9 heures du soir seulement. Il avait oublié sa fille jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Puis il s'était demandé chez quels parents, chez quels amis ou chez quels fournisseurs il avait bien pu la laisser. Et il avait fait le tour de ses relations, ne se souvenant de nous qu'au dernier moment. Je vois encore cette infortunée créature qui me paraissait une princesse de conte de fées accablée par un enchantement. Elle aussi, je les ai admirablement élevées, ne prononçait que des paroles de courtoisie, à la manière orientale. Elle disait à un chauve, « Oh, je vous félicite, mon cher cousin, de la perte de vos cheveux. Cela fait beaucoup plus mignon. » À une dame enchifronnée, « Ma tante, comment se porte votre jolie rhume ?» Elle déjeuna et dîna avec nous, sans s'étonner de l'absence de son père. Elle l'expliquait en se touchant le front. Vers 3 heures de l'après-midi, la conversation traînant, comme on peut le croire, ma mère apporta un morceau de batiste. « Voulez-vous ouvrir-les un petit mouchoir ? Ça vous distraira. »« Oh, je crois bien. » »« Vous l'emporterez et vous le marquerez plus tard à vos initiales. On ne peut pas toujours bavarder. » À 9 heures, quand le père revint, il trouva sa fille penchée sur son travail, qu'elle ne pourrait se dire pas quitter. « Oh, le temps n'a pas dû lui durer beaucoup, » fit-il. « Elle est si adroite, une fée. Montre-nous ce chef-d'œuvre. » Stupeur. Le mouchoir était vierge de tout point. L'infortuné avait piqué de l'aiguille 5 heures durant. Mais elle avait oublié de faire un nœud au bout du fil, si bien que l'aiguille était entrée et sortie inutilement. Cela me parut émouvant, ce travail exécuté pour rien, pour le geste. Une fée, le père avait raison, oui. Seule une fée établie, éblouie d'irréel, a le droit de négliger un détail aussi bas. Parfois, me voyant penché sur des besognes complètement vaines, tragédie mêlée de pitrerie, conte qui tenait tout entier dans le point de départ, premier chapitre d'un roman impossible, ma mère jetait un coup d'œil sur les papiers épars et me disait « Très bien, mais il faudrait tout de même un nœud au bout du fil. » Conseil excellent que je regrette de ne pas avoir toujours suivi. Mes débuts. Contact avec le public. J'avais donné au magasin pittoresque une étude sur Madame Geoffrin. Un abonné de l'étranger y releva une erreur. Je m'étais trompé sur le lieu du décès de l'illustre salonnière. Le correspondant ne plaisantait point. Il réclamait mon renvoi immédiat. Faute de quoi il se désabonnerait. Un lapsus de ce genre était, déclarait-il, indigne d'une publication sérieuse. Et j'envoyais à ce lecteur irritable une lettre qui contenait ceci en substance. « Monsieur, j'ai 79 ans. Je tirais mon unique ressource de ma collaboration au magasin pittoresque.
La direction vient de me signifier mon congé. J'espère que vous voudrez bien mesurer l'étendue de votre responsabilité. Ne pouvant plus gagner ma vie à Paris, je compte venir dans votre ville avec toute ma petite famille et solliciter de vous un emploi que vous jugerez plus en rapport avec mes facultés déclinantes. Vous nous reconnaîtrez facilement. Nous sommes 7 et nous tiendrons devant votre porte. L'abonné télégraphia au directeur pour demander ma réintégration immédiate. À tout péché, miséricorde, ajoutait-il. Le chemisier d'un de mes confrères fut plus intraitable. Ce confrère se piquait d'élégance et avait refusé un modèle qui ne lui seyait point. Les manches sont un peu longues et la poitrine un peu trop large. Mais c'est exprès, déclara ce commerçant, un gros homme sanguin et enclin aux violentes colères. Cela se rétrécira au lavage. Moi, je vous affirme que c'est très très bien ainsi. Et je prétends m'y connaître. Et moi, répliqua le client, je vous affirme à mon tour que je ne porterai pas ce sac. Voilà une affaire. Entendu. Un sac. Je vous prierai, monsieur, de mesurer vos expressions. Si vous vous obstinez à demander une ou deux petites rectifications, je m'inclinerai à regret. Non, j'en ai assez. Votre chemise est sabotée. Oh, je vous conseille de ne plus saboter vos pièces. Et vraiment que je sabote mes chemises. Vous êtes un grossier personnage. Et vous, un imbécile. Oh, vous avez de la chance que je sois chez moi. Une fourchette à huîtres et je vous sors de votre coquille. Le lendemain, mon camarade n'y pensait plus. Mais quelque temps après, lors de la répétition générale d'une pièce sur laquelle il comptait beaucoup, ayant jeté un coup d'œil sur la salle, il reconnut en frissonnant au troisième rang des fauteuils d'orchestre son chemisier, revêtu de la pâleur justicière à laquelle se reconnaissent les juges implacables. Il n'en faut pas tant pour démonter un écrivain le soir d'une répétition générale. La vue de ce commerçant atrabilaire donna un malaise au pauvre auteur. Il ne pensait point, pourvu que ma comédie plaise à la critique, au public, à mes maîtres, à mes amis, mais pourvu qu'elle plaise au chemisier. Si j'arrive à avoir celui-là, mon triomphe est certain. Vain espoir. Anxieusement guetté, le fournisseur, s'il resta gelé au passage comique, ne manqua point de ricaner aux scènes douloureuses. À la moindre hésitation d'un artiste en scène, il haussait les épaules et prenait ses voisins à témoin. Enfin, quand on applaudissait derrière lui, il se retournait et dévisageait les enthousiastes avec une telle fureur que ceux-ci, intimidés, s'arrêtaient. À connaître de ce personnage dont un grand acteur disait « C'est un homme de goût. Il ne tousse que pendant les silences. » Le chemisier, au passage, les plus palpitants émettaient une sorte d'aboiement dont il feignait de dissimuler dans son mouchoir et qui réveillait un peu partout les bronchites des assoupis. Malgré tout, l'événement eut une issue honorable. Mais les amis de l'auteur lui dirent au souper récapitulatif qu'il n'est pas la moindre corvée de la profession. Cela ira mieux demain. Tu as eu une générale très froide. Quels spectateurs! Ils étaient de bois, ils étaient peints. Allusion technique assimilant le public en chair et en os au public peint sur les toiles de fond. Ouais, surtout, tâche de savoir qui ça peut bien être. Un monsieur d'un certain âge, très élégant, au troisième rang de l'orchestre. Oh, je te réponds, qu'il a fait les couloirs. Il répétait: Oh idiot, ça fera pas un sou, on devrait s'en aller. Un ami intime à toi, probablement. L'auteur se récria: Oh, pas du tout. C'est un chemisier à qui j'ai laissé un modèle pour compte. Les autres acquiescèrent avec la hâte polie des gens qui font semblant, par pitié, d'accepter un gros mensonge. Et pendant 3 ou 4 ans, l'ennemi tenace, quand il n'assistait pas au général de son infortuné client, retenait un fauteuil à la première et décourageait les payants par son attitude. Il ne sifflait point, d'ailleurs. Craignant une expulsion, il restait dans les limites strictes de son droit. Il ne criait point « Saboté !» Il le murmurait. Et quand une actrice sexagénaire, jouant le rôle d'une ingénue, minaudait « Savez-vous que j'ai plus de 24 ans ?» Il émettait un « Hum » discret qui entraînait à sa suite toute la salle. Et si l'entracte se prolongeait, il était le premier à taper de sa canne sur le plancher. Le chemisier tournait au cauchemar. L'auteur, publiant un roman au rez-de-chaussée d'un journal, la direction lui communiqua au deuxième feuilleton 5 ou 6 missives signées de lecteurs indignés et qui estimaient que cette mauvaise plaisanterie avait assez duré. « Bon chemisier, encore lui, mais toujours lui !» se lamentait la victime. J'ignore la fin de l'aventure, mais je soupçonne fort mon confrère d'avoir abdiqué lâchement. Ses succès, depuis quelques années, ne se comptent plus. Il obtient l'unanimité des suffrages, mais on peut constater qu'il porte toujours des manchettes trop longues et que ses plastrons ont une fâcheuse tendance à bouffer. Soir d'épreuve où l'écrivain, assimilé à un criminel, essaye de lire son sort sur les faces indéchiffrables de 1000 jurés qui pensent à autre chose. Soir terrible où la moindre écorchure devient une plaie et la moindre approbation un baume. Où l'on embrasserait l'accessoiriste qui vous assure « Ne vous en faites pas, je suis de la partie et je la trouve rudement bien que vous pillez votre histoire. » Ou le « Coupé » du régisseur, estimant qu'il n'y a pas lieu à un nouveau rappel, équivaut à une guillotinade. Le dramaturge joue dans cette circonstance le rôle d'un père exhibant avec orgueil son enfant et à qui les gens opposeraient un « Moi, je le trouve affreux », tandis que la famille, dans la circonstance, les interprètes, le calmerait tant bien que mal. « Il est peut-être un peu chétif, mais ça se tassera. » Émotion passagère, haine provisoire, dont on garde, à défaut d'un souvenir profond, d'atroce gastralgie. Je lis ceci dans mes notes anciennes. Un vieil auteur dramatique est un polémiste sur le retour. Le polémiste détestait l'auteur dramatique depuis leur début au Quartier Latin. Vous avez été inséparables et vous avez pu vérifier l'arrière-observation de Gavarni. Oreste et Pylade seraient volontiers morts l'un pour l'autre, mais ils se seraient brouillés s'ils n'avaient eu qu'une cuvette et qu'un pot à eau. Le polémiste disait de son ex-ami: Oh, j'aurais sa peau, maigre dépouille. Le dramaturge se signalait par un de ses amours de théâtre si émouvante et que rien ne récompense au cours d'une longue et pénible carrière. Celui-là aimait tout du théâtre. Les répétitions, le chef de claque, la marchande de berlingots, l'odeur à la fois âcre et fade des coulisses, tout. Il avait eu, d'une interprète morte jeune, une fille naturelle qui jouait le vaudeville sur les scènes de quatrième ordre. Il fallait parfois l'embrasser et lui remettre 10 francs et un sac de pralines dont elle était friande. « Menteur !» affirmait l'ennemi. « C'est pas sa fille, il n'a jamais eu de fille !» Et il traînait son adversaire dans une sorte de boue rosâtre où il y avait du blanc-gris, de la pouderie et du fard à maquillage. Il arriva à montrer cet être inoffensif sous les espèces d'une sorte de barreau-hulot, satisfaisant ses vices grâce à des manuscrits achetés pour une bouchée de pain à des nègres faméliques. Le dramaturge mourut. Beaucoup de maladies, un peu de misère et de désillusion. L'enterrement eut lieu sans faste. Le polémiste y assista, interloqué comme un enfant qui aurait étonné, étouffé un moineau en jouant. La fille était là aussi, en cache-poussière jaune, mais en chapeau crêpe, et elle mangeait des pralines en pleurant. Au cimetière, le polémiste s'inclina devant elle, qui soupira. « ah, monsieur, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et l'autre de riposter. « Oh, soyez tranquille, mademoiselle. Il aura de ma main un superbe article monodronécrologique. Si les hommes comptaient l'histoire réelle de leurs amusiers, elle serait plus triste encore que celle de leurs amours. » Reportage extérieur, reportage officiel. Nous avons des landaus, comme les sénateurs et les députés, pour suivre l'amiral Avellan et les marins russes dans leur visite à Paris. La foule qui a hurlé « Vive Avellan, vive la Russie, vive les ministres, vive le préfet !» trouve encore des forces pour pousser ce cri inattendu « Vive la presse !» Nous saluons gravement. Un confrère, affligé d'une fluxion et qui porte un bandeau sur la joue, dépare un peu la beauté de notre groupe. Cette fois, s'extasie un doyen, les cuirassiers sont derrière nous. On nous met vraiment dans le cortège. Oh, j'ai jamais vu cela. Un jeune, ivre d'orgueil, murmure « Ça serait plus gentil si nous avions un uniforme ou une écharpe ou une médaille. » Nous suivons à pied la promenade aux abattoirs et quand nous voulons remonter dans notre landau, nous le trouvons occupé par 4 individus, ivres-morts, qui refusent de descendre malgré les conjurations et les objurgations du cocher. « On fait aussi bien qu'eux !» déclare fièrement un des occupants en tirant de grosses bouffées de son brûle-gueule. Le service d'ordre est coupé ailleurs. Il est occupé ailleurs, alors nous ne pouvons rien faire appel aux cuirassiers de l'arrière-garde. Il nous faut descendre, des intrus, un à un. Oh, ils ne nous opposent qu'une résistance passive, mais ils se font lourds. Et quand le quatrième est enfin évacué dans les rires du public, les soldats nous ont quittés. Nous ne sommes plus dans le cortège. Nos chevaux trottent comme ils peuvent au milieu du public hostile. On nous hue après nous avoir acclamés. « Hôte !» s'écrie notre doyen qui a des lettres. « Il hôte !» Et il reçoit en pleine figure un quignon de pain lancé par un badaud indigné qui s'écrie « Il a traité ma femme d'idiote ! Enlevons-les !» Le landau, secoué par 20 poignes, tangue dangereusement, et le cocher, saisi de crainte, choisit une rue transversale d'où il prend, sans nous consulter, le chemin du retour.
L'histoire qui suit est vraie, bien entendu. Seul le nom de la ville sera changé, car le héros de l'aventure y exerce peut-être encore. Mettons que cela se passe à Auvenargues, ville importante du Midi. Une dépêche datée d'Auvenargues donne de longs détails sur un mouvement révolutionnaire dans cette cité fort gaie mais paisible. Des grèves ont éclaté, des coups de fusil ont retenti. La situation est grave. On m'envoie là-bas, j'y vais avec d'autant plus de plaisir que ce janvier parisien est pluvieux. Mon rédacteur en chef me souhaite bon voyage et me conseille de ne pas me tenir à portée des coups de fusil. Enfin, je pars assez ému. Pourrais-je aller jusqu'à Auvenargues? La gare est sans doute occupée militairement. Dans le train, j'interroge les voyageurs, me paraissent peu au courant. Je leur montre quelques journaux crayonnés de bleu, et à l'arrivée, mes voisins, alarmés, sont tous dans le couloir. La gare présente son aspect normal. De hardis compagnons, ainsi dit le poète, transportent les bagages comme si de rien n'était. L'émeute a dû éclater dans un quartier lointain. Je descends, un monsieur m'aborde, un monsieur très jovial, qui a l'aspect de Tartarin. « Oh, je ne vous connais pas, me dit-il, mais je vous reconnais. Notre journal vous envoie sur place. Oh, j'ai été prévenu. Je vous attendais même hier. Enchanté de faire votre connaissance, mon cher confrère. Je tiens absolument à vous piloter. Vous ignorez Auvenargues. Oh, c'est une ville qui a des ressources infinies. Monsieur Chinchol, du Figaro, qui a bien voulu me prendre pour guide, m'a juré qu'il ne s'était jamais si bien amusé. Vous verrez, un petit café chantant, comme vous n'en avez jamais vu à Paris. On boit du vin mousseux avec des dames. Mais halte-là, mon cher ami, nous n'en sommes pas encore au souper. Nous déjeunerons d'un aioli dont vous me donnerez des nouvelles. Un aioli complet, avec bœuf, escargot, etc. Et pour dîner, je vous conduirai dans un petit restaurant où vous dégusterez un bouillabaisse et pâtes. Passe-moi la valise. Tu es jeune, tu ne demandes qu'à te distraire, et moi, je ne suis pas tout à fait moisi, tu verras. On se fera une bonne pinte. Tu logeras à côté de chez moi. Oh, c'est pas absolument un hôtel, mais tu auras une bonne chambre éclairée à la chandelle comme au temps de Paul-Louis Courier. Et la soubrette t'apportera ton chocolat dans le lit, vénard. Et mon reportage, fis-je. Quel reportage? Madame, je viens tout de même pas ici pour me rendre compte. Oh, je le ferai pour toi, ton reportage. N'aie pas peur, j'ai une plume. 500 lignes par jour et 400 le dimanche. Parce que j'écris un roman feuilleton à mes moments perdus. Rendez-moi ma valise, vous êtes fatigué. Espère un peu que j'aille chercher un fiacre. Mais non, j'irai moi-même, je vous ai déjà trop dérangé. Mais pas du tout, c'est un plaisir, reste là. Et dis donc, tu ne veux pas me tutoyer? C'est donc que je te dégoûte? Quelle idée! Bon ben, accompagne-moi à l'hôtel, ensuite nous prendrons rendez-vous. Tu veux faire ton reportage tout seul? Moi, cela vaut mieux. Écoute, frère, psy de cocher, monte, je t'en prie, et tu sais, c'est moi qui régale, je paye tout. Et bonjour, Baptistin. Tu vois, je connais le cocher, je connais tout le monde ici. Toi, tu arrives en étranger, tu ne peux rien voir. Tu travailles encore ce soir, Baptistin? Ah, tu attends l'ordre de grève? Oh, il t'attendra pas. Hey, ça va chauffer, Boudius. Allez, monte, mon vieux, installe-toi sur les coussins. Je te passe ta valise. Tu as vu s'il a cligné de l'œil, le Baptistin? Demain, il déclenche la grève, roide comme balle. Oui. Ici, tu vas me faire comprendre. Tu vas me comprendre. Il faut voir les choses en dessous. Oh, je parie que tu trouves la ville normale et... Oui, je l'avoue. Mais il y a du monde dans les cafés. Les orchestres jouent, les gens n'ont pas l'air d'avoir l'air. Tu saisis. Mais tout ce qui couvre... Tu vois un monsieur qui accoste un autre monsieur. Tu t'imagines qu'ils se disent « Comment ça va chez vous ?» Pourvu qu'ils ne peuvent pas demain. Erreur. Ils se... Mot. Tiens, nous sommes jeudi. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des barricades, mais... Tous de vendredi au 8... Mais tu seras parti et... Oh, et tu ne vas pas t'éterniser. Je flaire une énorme mystification. Et les coups de fusil? Oh, ça voudrait que si tu veux te rafraîchir, je t'amènerai dans un bar épatant. La patronne est tatouée, tu riras. Trois ans, ton vieux Joseph. Mais les coups de fusil, vieux Joseph. Ah, nous sommes arrivés. Plus tard, te voilà dans ton hôtel. Madame Ernest, Madame Ernest. Elle va venir. Le quartier est sinistre, mais tranquille. Joseph m'arrache des mains la monnaie que je tendais au cocher, me fourre d'autorité les pièces dans ma poche. Ça me regarde, je monte avec toi. Oh, merci beaucoup, mais je voudrais dormir un peu. Ben, je te regarderai dormir. J'ai des enfants, j'ai l'habitude. Madame Ernest se précipite. On devait lui annoncer un hôte à ménager. Elle m'offre une chambre à elle, une sorte de salon d'attente, dans lequel on a dressé un lit de sangle. Au mur, la photographie de feu son mari sur son lit de mort et un certificat d'études primaires encadré. Joseph parle toujours. Il trouve tout très gai. La vue sur une usine, entre autres. Tu ouvres ta fenêtre, tu regardes des gens au travail. C'est moins monotone que la mer. Visiblement, il s'efforce. Il y a de l'inquiétude dans son regard. Et les coups de fusil? Encore? Mais c'est que je viens pour ça. Oh, alors maintenant nous sommes seuls. Je vais t'expliquer. Tu n'as pas 20 ans. As-tu l'idée de ce que c'est, un père de famille? Non, mais je n'établis pas le rapport. Comprends. Ton vieux Joseph a 4 enfants. Une Pajulette de 15 ans, qui s'essaie sur l'aquarelle. Un Émile de 13 ans, qui est porté sur la mécanique. Une Aline de 10 ans, qui a eu son prix d'arithmétique à la fin de l'année scolaire. Et un pouf patapouf de 3 ans, ce cher humain. Il faut que tout ça fasse ses 3 repas par jour. Et les chaussures aux pieds, et la pèlerine, et les livres de classe. Sans compter les manteaux de madame, mes cigarettes et la campagne le dimanche, mon cher ami. Avec quoi vous figurez-vous que je vous paye? Hé, avec quoi? On n'est pas à Paris ici, cher confrère. On n'est pas un petit monsieur qui ne pense qu'à s'offrir de jolies cravates. Moi, je vide mes lignes. J'écris à m'en faire péter les os de la main droite. Et quand un correspondant est malade, je le remplace. Quand il va en vacances, je le remplace. Je représente à l'heure actuelle ici 7 journaux de la capitale, ni plus ni moins. À 10 centimes la ligne, pour que cela fasse un compte, il ne s'agit pas seulement de se grouiller, il faut encore avoir de l'imagination. Mon cher confrère, je parle à un homme qui est au courant du métier.
Vous pensez bien que si je devais m'amuser à contrôler, je n'aurais pas une minute pour écrire. Qu'il y ait du mécontentement dans la classe ouvrière, c'est un fait. Ah non, monsieur, non, non, vous ne le nierez pas. Un de mes correspondants, j'en ai dans toutes les ondes, m'a annoncé un meeting secret dans une salle dont il ne pouvait pas me donner le nom. Mais quel est notre rôle? Bien d'assister au meeting. Peut-être, mais avant tout, notre rôle est de rapprocher. J'étais chez moi en pantoufle, à m'attendre la copie. Ma femme arrive, toute pâle, et elle me dit: Tu as entendu, Trésor? Oui, j'ai entendu trois coups comme quelqu'un qui battrait les tapis. Elle lève les épaules. Pauvre optimiste, mais ce sont des coups de fusil. Alors pourquoi se serait-elle trompée? Elle me disait cela en toute innocence. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Je rapproche. Mécontentement, meeting, coup de feu. Et j'envoie 7 dépêches à mes 7 journaux, plus 7 comptes rendus pour Orsac et tous différents. Je vous prierai de l'observer. Cherchez 2 adjectifs qui se ressemblent. Vous ne les trouverez pas. S'il y a eu erreur, tant mieux. Les choses s'arrangeront. S'il n'y a pas eu erreur, ben, vous aurez été les premiers informés. Pas la peine, soit dit sans vous vexer, de m'envoyer quelqu'un de Paris. J'ai été induit en erreur. Bon, j'insiste pas. Je rapproche, mais aussi je rectifie adroitement. Le calme est maintenant tout à fait rétabli, par exemple. Il ne me quitta que lorsque j'eus rédigé un télégramme. Situation meilleure, lettre suit. Et dès lors, il recommença de me tutoyer. Mais il ne fut vraiment soulagé que lorsqu'il m'eut accompagné à la gare. Une autre fois, ne te dérange plus. Que diable, on peut avoir confiance en moi. Est-ce que j'ai envoyé une fausse nouvelle? Non, jamais. Je préférais me couper les poignets, et c'est un poignet de père de famille. Adieu, fils. Porte-toi bien. D'ici 15 jours ou 3 semaines, il se peut qu'il y ait du nouveau. Le meeting, tu sais, on ne te trouble pas, tu seras averti. Tel fut mon premier reportage en province. À la suite de ce correspondant, dont on pourrait dire vraiment qu'il était particulier, et qui, tranquillement, chez lui, au coin de son feu, donnait sur sa paisible cité des informations dont la moindre était propre à donner de l'angoisse aux plus courageux. Et cela, tout naturellement, en rapprochant, et aussi en trouvant des titres dans le genre de celui-ci attribué à l'ami l'un de ses émules, « Paris à feu et à sang » pour un saignement de nez dans un omnibus et un feu de cheminée, place de l'Alma. Je crois bien qu'au cours de mon apprentissage de journaliste, j'ai tenu toutes les rubriques. J'ai composé, pour une élection du président de la République, 3 numéros différents, chacun consacré à un candidat avec articles biographiques, portraits et détails circonstanciés sur l'élection. Les 3 numéros étaient prêts à rouler. Machine numéro 1, machine numéro 2, machine numéro 3. Un pigeon voyageur, envoyé de Versailles, apportait la nouvelle en quelques secondes. Faites marcher le numéro 3. 10 minutes après l'élection, le public s'arrachait les feuilles fraîchement sorties. Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé et ce qui serait passé en cas d'erreur. J'ai tenu la soirée dramatique, compte rendu d'une répétition générale par ses petits côtés, description de la salle, des couloirs, anecdotes, bons mots, etc. On m'avait donné comme modèle les soirées de monsieur de l'orchestre, la générale de Manon à l'opéra comique par exemple. janvier 1884. D'abord, quelques mots sur l'auteur qui écoute sa partition et murmure: c'est mauvais. Son éditeur proteste, affirme qu'il trouve cela très bien. Massenet écrit: très bien, et si je vous flanquais une paire de gifles, est-ce que vous trouveriez ça bien aussi? À ce moment, la salle éclate en applaudissements. Le compositeur, repentant, se précipite dans les bras de son éditeur et lui demande pardon. Quelques détails sur les répétitions. Quand Massenet prévoyait qu'on allait lui demander une coupure pour un changement, il disait: alors, cher ami, je m'en vais. Et il partait sur la représentation. La porte de communication est restée fermée et ordre formel a été donné de ne visser aucun morceau. 10 lignes de nom, indiscrétion, un mélodrame à louer dans un hôtel des Champs-Élysées, un appartement contigu à celui de Mademoiselle Marie Helbron, pour entendre celle-ci étudiant son rôle, ce qui a forcé la créatrice de Manon à déménager. Mais il faut poursuivre la tradition instaurée par le monsieur de l'orchestre, une véritable vocation. Et au bout de quelques mois d'exercice, les anecdotes s'épuisent et le soireux, d'occasion, brode d'insipides variations en marge de la critique. La nécrologie a aussi ses déboires. La célébrité à surveiller se rétablit parfois ou meurt au moment où on s'y attend le moins. C'est ainsi que 3 jours après le décès d'un écrivain nonagénaire, le rédacteur, proposé à sa notice, m'affirmait encore: oh, il va beaucoup mieux. J'ai interrogé son médecin, c'est une question de temps, mais la constitution est robuste, il s'en tirera. Et il me remettait en quelques lignes l'interview du médecin. Le 4e jour seulement, mis au courant par les camarades, il expliquait tranquillement: écrire pour les journaux, passe encore, mais les lire, non. J'ai eu entre les mains un article nécrologique rédigé par un confrère qui disparut avant son modèle. À la mort de celui-ci, on fit passer l'article en changeant la signature. La rubrique des tribunaux est précieuse pour un futur romancier, mais j'estime que dans la circonstance, comme dans le reportage, c'est la menue monnaie du travail quotidien qui donne pour l'avenir une provision magnifique. Et comme je l'ai déjà dit, le procès retentissant a toujours quelque chose d'apprêté, de théâtral, de convenu. L'accusé est éteint par l'appareil de la justice, par son avocat, par l'auditoire. Ce que je regrette de ce stage chez Thémis, ce sont les flâneries dans les chambres correctionnelles, les brouilles dont on ne se tirera que quelques lignes d'information, mais où l'on a vu, dans sa pitoyable nudité, la misère de la condition humaine. Édouard Hervé, qui était un directeur très avisé et un grand journaliste, me disait: traitez cette rubrique en romancier consciencieux. Un vol dans un grand magasin, un banal procès en coups et blessures peuvent vous donner un article émouvant ou amusant, alors que l'affaire dont tout le monde parle ne voudra qu'un résumé de 10 lignes. Le palais vous appartient. Je vous donne une colonne par jour. Disposez-en à votre gré. Édouard Hervé, un des 2 journalistes qui furent reçus à l'Académie française, m'enseigna l'amour de la profession jusque dans les corvées qu'elle comporte et qu'il n'esquivait pas pour son compte. C'était un homme curieusement glabre. À la fin de sa vie seulement, il laissa pousser sur ses joues des favoris qui lui donnaient l'aspect d'un de ces fins magistrats de jadis, épris de littérature,
et à la fois implacable et indulgent, de santé débile et trouvant pas aisément le sommeil, il arrivait parfois vers 5 heures du matin au tirage et causait avec les ouvriers. Il se plaisait aussi à survenir devant le marbre au moment qu'on l'attendait le moins. Bien des fois, recru de fatigue et somnolent à ma petite table de secrétaire de la rédaction, au milieu des 40 hommes qui composaient le soleil, je sursautais en voyant surgir devant moi, en habit noir, sortant du théâtre ou d'un bal, le patron lui-même, affable et souriant, le chapeau à la main, car il était d'une extrême courtoisie. « Je viens vous aider un peu, » me disait-il. « Vous ne trouvez pas que la mise en page a quelque chose de passionnant ?»« Oh, ce n'est pas un vain mot. La beauté typographique. Donnez-moi la morasse. » Il lisait la morasse avec la rapidité vertigineuse du professionnel. Trouvait ici une grosse coquille qui avait échappé à tout le monde. Là, une erreur qui, ou un bourdon, ou un mastic. Et en même temps, il jugeait les articles. Les plus mauvais lui arrachaient dans un soupir le « Oui, oui, évidemment » du philosophe. Et quand il en trouvait un bon, il griffonnait des remerciements sur sa carte, ajoutait une jolie gratification, et l'auteur trouvait cette surprise le lendemain dans son casier. Il était doux, réfléchi, studieux, avec des gestes ouatés, une parole lente et faible comme un murmure. « Que pensez-vous de ce titre ?» me demandait-il. « Oh, je le trouve excellent. Trop vite répondu. Attendez, lisez, examinez. Quel merveilleux conseil ! Hâtez-vous lentement. Ne soyez pas comme ces gens qui parcourent au galop les salles d'une exposition de peinture et reviennent en déclarant « Il n'y a rien. Il y a toujours quelque chose. Seulement, il s'agit de voir. Je dois toute ma destinée à l'acharnement avec lequel j'ai examiné la section des machines à l'exposition de 1867. » Encore un endroit où les gens galopaient. Je me suis arrêté dans un endroit désert où un ouvrier m'expliqua la fabrication de la pâte de bois. Et grâce à cette invention, je pus créer le premier journal à un sou. Et j'ai la conviction que l'on ferait des trouvailles pareilles à chaque minute. Et brusquement, « Est-ce que votre métier vous intéresse ?» Deux fois, je lui répondis en toute franchise, il m'intéressait beaucoup, il m'intéresse moins. Ce fut ainsi qu'il me transporta de la Gazette des Tribunaux à la critique dramatique et du secrétariat de la rédaction à la chronique. Sa patience était admirable et profonde sa connaissance des hommes. « Voyez-vous, me confiait-il, un journal vaut surtout par son secrétaire de la rédaction. Mais le titre est mal trouvé, secrétaire. Les rédacteurs en abusent et ils transforment ce chef en serviteur. Dites donc, vous qui êtes toujours là, corrigez donc mes épreuves, vous serez bien gentil. Mais moi, je le verrai avec plein pouvoir et la clé de la caisse aussi. Il paierait les rédacteurs à son gré. Car lui seul sait exactement les services rendus, le travail effectué. Secrétaire de la rédaction. Mais tout le monde croit que c'est un domestique de la rédaction. Mais quel métier superbe! Le plus attachant, c'est ce qui se passe entre 1 h et 3 h du matin. Les dernières nouvelles, les dépêches, les feuilles d'agence, tout l'univers est là, sur votre table. Hélas! L'univers était sur ma table. Mais 1 h à 3 h du matin, quand on a 20 ans, le sommeil vous terrasse. Imaginez cela au mois d'août, par une nuit étouffante, dans une sombre imprimerie. et parfois, de lassitude, je laissais ma tête tomber sur la table et je dormais, là, vaincu, sur les épreuves amoncelées, comme un collégien sur ses devoirs. Le metteur en page, pris de pitié, enlevait le travail tout seul, et je dois avouer qu'il s'en acquittait supérieurement. Et quand je me réveillais, on serrait la dernière forme, et ces braves gens riaient de ma stupeur. Et parfois, l'un d'eux me faisait un bout de conduite. Nous allions à l'aube tremblante dévorer un corbillard chez le charcutier spécialiste ouvert toute la nuit, et où secoudoient les noctambules, de hâves pauvresses et les journalistes. Un corbillard, c'est une saucisse chaude intercalée dans une miche de pain frais. Un café bu dans un bar voisin, et nous repartions à pied. Beaucoup de ces ouvriers avaient une culture étonnante et rectifiaient d'eux-mêmes, sans y mettre d'ostentation, un certain nombre de fautes de syntaxe et d'orthographe. J'appris à connaître là le petit peuple de Paris, si doux et si sensible sous sa gouaille. Je leur prêtais des livres qu'ils ne lisaient pas, de la pointe de l'œil, comme trop de gens, mais avec une application passionnée et sur lesquelles ils portaient les jugements dont la sagacité me frappait. Je devais peu après renoncer à ce travail nocturne et débuter dans les magazines alors naissants. Reportage photographique. Pendant que j'interroge, mon camarade installe son appareil. On n'est pas encore blasé sur ce genre d'opération. Il amuse les uns, il effraie les autres. Pour avoir voulu prendre un vieil historien au cours de sa promenade, le pauvre photographe se voit menacé par cette célébrité irascible qui fond sur lui et essaie à coups de parapluie de démolir l'appareil. Les reporters photographes d'aujourd'hui, qui ont place dans toutes les cérémonies et asphyxient à l'aide de leur magnésium les personnalités les plus considérables, ignorent les luttes que leurs devanciers durent soutenir. Mais pour un récalcitrant, que de bonne volonté charmante, que de touchante résignation. Je vais chez François Copé, le meilleur des hommes, le plus obligeant aussi. Il m'installe en face de lui, nous allumons des cigarettes et nous bavardons. Mais je balbutie. J'aurais quelque chose à vous demander. J'écoute. Je voudrais une photographie de vous. Mais rien de plus facile. En voulez-vous une belle, en académicien, l'épée au côté? Non, non, une photographie inédite. Mais sortez votre appareil et indiquez-moi la pose. Je ne l'opère pas moi-même. Le photographe est devant la porte. Pauvre garçon, mais dépêchez-vous de le faire entrer. Il me prendra dans mon jardin. Enfin, quand je dis mon jardin, c'est celui de Denis Cochin. Mais j'ai le droit de m'y promener tant que je le veux, et même de m'y faire tirer un portrait. C'est que voilà... Pour que cela soit plus piquant, mon rédacteur en chef m'a demandé d'obtenir de vous de poser au L'Invalide. Oh, sur l'affût d'un canon, je parierais. Autant que possible. Cela vous fera plaisir. Dans ce cas, je n'hésite pas. Mon chapeau, ma canne, je vous suis. Une idée américaine, hein? On se fichera de moi, mais ça me fera prendre un peu l'air. Et puis, n'est-ce pas? Comme c'est raté 9 fois sur 10, je risque pas grand-chose. Une poignée de main au photographe. Il fallait entrer, voyons. Et nous voilà partis. À l'enterrement du poète des humbles, Catulle Mendès me disait « Regardez, regardez bien ces petits employés, ces cousettes, ces humbles bourgeois, toute cette foule.
Vous voyez ce que vous ne reverrez pas, sans doute jamais, l'hommage de Paris au dernier écrivain populaire, vraiment populaire. On pourra discuter, chicaner tant que l'on voudra. Il était aimé. Grâce à cette promenade aux Invalides, je pus me rendre compte de la popularité de François Copé. On connaissait ce visage doux et régulier, aux yeux bleus, le visage à peine vieilli du triomphateur odéonien, dont le passant avait ouvert libre carrière à toutes les espérances des rimeurs. Il répondait au salut, jetait une boutade à celui-ci, demandait à ce balayeur des nouvelles de sa femme, et félicitait ce sergent de ville de prendre sa faction pour un temps aussi beau. Et nous arriverons aux Invalides. Malheureusement, les curieux s'obstinent. Certains viennent regarder sous le nez le poète. D'autres font cercle. « Voulez-vous être bien gentil ?» s'écrie François Copé. « Laissez donc ces messieurs travailler. Ils ne sont pas là pour leur plaisir. » Et il ajoute in petto, « Moi non plus. Les gens consentent à se retirer. Il faut se dépêcher. Vite, 3 ou 4 pauses, puis... »« Mais non, 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 ne me remerciez pas. C'est trop naturel. Vous avez probablement manqué votre affaire. Nous reviendrons, voilà tout. En attendant, allons prendre l'apéritif. » Et nous prenons l'apéritif en glorieuse compagnie. Nous parlons de Paris, dont je voulais fixer l'aspect rue par rue. François Copé me donne des renseignements sur la rive gauche qu'il connaît, pavé par pavé. Je l'entretiens de certains quartiers de la rive droite. Ne dirait-on pas, souhaite-t-il, qu'il s'agit de deux pays voisins, mais séparés par une frontière hostile. Et ce sont deux pays vraiment avec des mœurs et des langages différents. Un seul historiographe ne peut assumer les deux tâches. Et quand l'article eut paru avec les illustrations, un hasard d'une nuit en face de François Copé, « La photo est horrible, me dit-il. Mais l'intention était si bonne. » Et il rit de bon cœur en allumant une des innombrables cigarettes qui jetait à près de 2 ou 3 bouffées. Je devais m'occuper par la suite d'un grand magazine féminin à ses débuts. Rien ne peut donner une idée de la correspondance que recevaient alors ces illustrés. Naïveté d'électrice qui demandait conseil à la fois sur la façon la plus économique et la plus rapide de nettoyer des gants de Suède et sur le choix d'un fiancé. Il me paraît robuste et honnête, bonne famille, excellente référence, mais il transpire des mains. Pourriez-vous m'indiquer un remède et la façon de le conseiller adroitement intéressé ? Autre lettre. Au chevet de mon mari malade, je confectionnais une robe rose pour l'abuser sur son état. J'ai perdu ce cher mari il y a 4 mois. On annonce une garden party à la sous-préfecture. Puis-je utiliser ma robe rose avec un crêpe en bas? Dans ce cas, à quelle hauteur le crêpe? Et une anxieuse, qui signe Follette du Bois Fleuri, envoie sa photographie sans retouche pour qu'on lui dise, dans la petite correspondance, si le modèle de ce portrait peut être considéré comme une femme assez jolie, jolie ou très jolie. Papa me trouve belle, maman estime qu'il exagère. J'espère que ces messieurs de la rédaction voudront bien ne pas me cacher la vérité, quelle qu'elle soit. Prière aux dames de s'abstenir. Et dans ce fatras, des lettres étonnantes aussi, des envois poétiques, d'une grâce, d'une envolée, d'une harmonie remarquable. Ici, la puérilité poussée jusqu'à ses plus extrêmes limites, et là, une sensibilité artiste. parfois véritable don que la vie, avec ses exigences, devait étouffer, hélas, des cris de désespoir. Je vieillis. Jadis, mon mari me regardait et j'étais confiante. Aujourd'hui, il me juge et je souffre le martyre. Pour celle-ci, une ride qui survient et qui vaut à une catastrophe. Pour celle-là, le miroir qui lui renvoie une image au nez trop long ou aux oreilles trop évasées lui donne des idées de suicide. J'ai pensé à ces infortunés qu'il ne faudrait pas se hâter de railler quand surgirent les récentes découvertes de la chirurgie esthétique. On a beaucoup discuté sur le point de savoir si la laideur était une infirmité. Certes, et la plus douloureuse peut-être. Aux spécialistes que j'ai interrogés et qui me disaient, au sujet des confidences poignantes qu'ils recevaient, « Si vous saviez !» J'ai donc pu répondre « Je sais !» Henri Duvernois.